Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au nom de la BPI, la Bibliothèque publique d'information, et je vous souhaite donc la bienvenue à ce colloque Céline, réprouvé et classique. Patrick Bazin, le directeur de la BPI, qui devait ouvrir ce colloque, est retenu pour intervenir à une table ronde au Forum Culture. Il m'a donc spécialement demandé de l'excuser auprès de vous, car il regrette énormément de ne pouvoir vous accueillir. La préparation de du colloque a commencé il y a maintenant plus de 6 mois, ce qui le situe résolument hors de la question de l'inscription ou non de Céline dans la liste des célébrations officielles. Mais, pour situer la BPI dans cette question de la célébration et rappeler pourquoi la BPI organise ce colloque, je reprendrai le volontiers d'un article récent de Marc Weissmann. Célébrer Céline, point d'interrogation, non. L'étudier, oui. J'ai retenu ce titre car cela correspond tout à fait aux missions de la bibliothèque. En effet, nous organisons nos manifestations dans le même esprit que nous constituons nos collections. À savoir que si ce colloque réunit nombre de spécialistes et intéressera les spécialistes, je l'espère, notre vocation en tant que bibliothèque ouverte à tous est de nous adresser au public, pour éclairer les questions difficiles de l'actualité, pour nourrir l'intelligence de l'époque et apporter à nos lecteurs-auditeurs des éléments pour une compréhension critique du monde. Or, Céline pose un vrai problème collectif de compréhension ou de positionnement, comme si l'on balançait en permanence entre, d'un côté, la réprobation de sa violence antisémite et de ses prises de position pro-nazi, et de l'autre, la reconnaissance du génie de l'écrivain, reconnaissance par les lecteurs, par l'édition, par ses pairs, par la critique et par les études et les programmes qui lui sont consacrés. Mais je sais que j'entre déjà là dans un débat. La reconnaissance de l'écrivain dépasse largement nos frontières. C'est une chance, je pense, pour mieux comprendre Céline et certainement une chance pour comprendre et avoir une chance de dénouer également notre embarras national face au cas Céline. C'est pourquoi, vous l'aurez remarqué, notre programme fait largement appel aux lecteurs internationaux de Céline. Il nous a également semblé que le regard des artistes viendrait encore enrichir cette vision. C'est pourquoi la première journée se clora sur le spectacle de Denis Lavant et demain sur une lecture de Fabrice de Lucchini. Pour terminer, j'adresse mes plus vifs remerciements à nos intervenants, spécialement ceux venus de loin. Remerciements également à André Derval, directeur de la revue d'études céliniennes, à Emmanuel Payen, chef du service de la programmation culturelle de la BPI, ainsi qu'à l'équipe technique. Tous ont permis la tenue de ce colloque, et je laisse la parole à André Derval.
Merci Philippe, et bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux à cette première session du colloque Céline qui se tiendra donc sur 2 journées. Elle devrait permettre, du moins je l'espère, de mieux comprendre le cadre, les termes et les visées du cas Céline qui, récemment, a encore fait parler de lui. Nous aborderons successivement les données biographiques, son audience à l'international, sa place dans l'histoire et les à côté ou prolongements de son œuvre. Spectre assez large donc des investigations. Et cela est nécessaire. On voit en effet écrire ici ou là que l'œuvre de Céline figure parmi les plus étudiées. Pourtant, elle ne bénéficie en France d'aucun travail collectif mené par exemple par une équipe d'enseignants-chercheurs, comme cela se produit pour tant d'autres écrivains. L'essentiel des travaux et des publications scientifiques sur le sujet repose sur la bonne volonté de francs-tireurs qui présentent leurs résultats au sein de l'association Société d'études céliniennes. L'une des grandes chances de Céline en 2011, c'est son retentissement international, qui fait qu'au fil du temps, un réseau de chercheurs a pu se constituer autour des colloques de la Société d'études céliniennes. Mais cela demande beaucoup de temps, et les travaux progressent à force de recoupements et de lentes acquisitions des nouvelles données. Trop souvent encore, de vieilles lunes encombrent les lignes consacrées à Céline. Et ne parlons pas des pures et simples dénégations, de faits avérés. Encore récemment, un article sur la réception de Céline aux États-Unis négligeait sciemment d'indiquer que ce pays ne bénéficiait que d'une traduction tronquée de Voyage au bout de la nuit. L'autre chance de Céline, actuellement, c'est l'ampleur de son lectorat en France. Face à cette grande demande, il est impérieux que la lumière soit faite aussi complètement que possible sur l'œuvre et sur l'homme. En ce cinquantenaire de la mort de l'écrivain, l'occasion s'en présente ici. Et je remercie la BPI de nous avoir permis de la saisir, en la personne de Patrick Bazin, Philippe Charrier et Emmanuel Payen. Je vais maintenant passer la parole à François Gibeau, le premier biographe de Céline, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui va nous présenter les premières communications du colloque. Je vous remercie.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire quelques observations. La première, c'est que Viviane Forrester, qui devait s'entretenir avec moi de Céline, est malheureusement souffrante. Elle m'a téléphoné hier soir, elle est absolument dans l'impossibilité de participer à nos travaux et elle vous prie de bien vouloir l'en excuser. La deuxième observation que je voudrais vous présenter est relative à la société d'études céliniennes. André Derval vient d'en dire un mot. Je reviens sur ce point. J'ai l'honneur de présider depuis 20 ans, peut-être 25 même, cette société d'études céliniennes qui a été fondée en 1974. C'est donc une société littéraire ancienne qui n'est pas une société des amis de Louis-Ferdinand Céline, c'est une société d'études qui a été constituée donc par un certain nombre de fondateurs, Antoine Gallimard, Jean-Pierre Dauphin, Henri Godard, Philippe Almeras et votre serviteur. Il faut savoir que cette société est totalement apolitique et qu'elle a été présidée, notre premier président, je crois que cette précision est importante, c'est André Lvoff, qui n'est pas suspect d'antisémitisme, évidemment, et qui était prix Nobel et qui était membre de l'Académie française. Notre second président a été Gérald Antoine, le recteur Antoine, bien connu dans les milieux universitaires, qui est aujourd'hui membre de l'Institut, il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et le troisième président, c'est l'homme qui vous parle. Alors, comme nous avons un petit peu de temps, puisque Viviane Forrester n'intervient pas, je vais vous dire quelques mots de mon expérience de biographe de Céline. J'ai publié en 3 volumes une très volumineuse biographie de Céline, dont le premier tome a été publié en 1977, le second en 1981, et le troisième en 85, publié d'ailleurs dans le désordre, puisque j'avais publié le troisième avant le second. J'ai donc travaillé pendant plus de 10 ans à l'établissement de cette biographie qui était pratiquement la première biographie de Céline. Alors je voudrais vous dire l'intérêt que j'ai trouvé dans ces travaux, qui tiennent au fait, je ne voudrais pas anticiper sur ce que Gaël Richard va nous dire, il m'autorise à parler un peu de ça, c'était d'abord que Céline est un écrivain qui a été engagé dans tous les grands événements de son temps. Guerre de 14, bien entendu, les problèmes de la colonisation, bien entendu, ensuite... les combats que vous savez pendant l'entre-deux-guerres, ses engagements pendant l'entre-deux-guerres, puis ensuite il est de nouveau mêlé à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un homme donc qui a toujours été un écrivain engagé. Il était donc très intéressant quand on écrit la vie de Céline, surtout quand on traite de ses écrits politiques, de suivre en même temps les événements du monde. On suit la vie de Céline et les événements du monde qui sont toujours liés. Ça, c'était très, très intéressant pour moi. Et puis, le second intérêt que j'y ai trouvé, c'était évidemment, je pense que vous allez en parler, d'essayer de démêler le vrai du faux. Parce que Céline a fait en sorte de brouiller les pistes. Il a beaucoup brouillé les pistes. Je ne vais pas en parler longtemps, puisque peut-être vous en parlerez vous-même, mais je ne cite qu'un seul exemple, c'est la trépanation. Céline avait dit à certains de ses proches qu'il avait été trépané, ce qui n'est pas exact. En tout cas, il a laissé courir le bruit. Il l'avait dit à Marcel Aimé qu'il l'a dit quand il écrivait à la Cour de justice pour défendre Céline. Et surtout, il l'avait dit à Henri Mondor. Henri Mondor qui a préfacé le premier tome de Céline dans la collection de la Pléiade. Collection de la Pléiade qui était prévue, qui était programmée, mais que Céline n'a pas pu voir puisque le premier tome a été publié très peu de temps après sa mort. Mais Henri Mondor devait préfacer ce volume. La préface d'Henri Mondor était prête bien avant la publication. Il avait envoyé le texte à Céline et Céline avait écrit à Mondor une lettre dithyrambique en approuvant entièrement les termes de sa préface, dans laquelle, bien entendu, Henri Mondor parle de la trépanation. Ce qui montre que Céline, en tout cas, laissait courir les faux bruits sur lui, et le travail du biographe était rendu difficile parce qu'il fallait démêler le vrai du faux. Je le répète, Céline avait fait vraiment tout ce qu'il fallait pour brouiller les pistes. Et puis, alors, le dernier intérêt que j'ai trouvé à ce travail, c'est évidemment que l'œuvre de Céline est pratiquement entièrement, enfin, sauf les pamphlets, entièrement autobiographique. Mais, évidemment, ce n'est pas une autobiographie exacte. Céline n'est pas un romancier d'imagination. C'est un homme qui a écrit des romans toujours à partir d'une réalité qui était sa vie. Tous les romans sont autobiographiques. Mais comme il n'écrivait pas tout de suite, il attendait généralement une bonne dizaine d'années avant d'écrire donc ses souvenirs sous forme romancée. Alors d'abord, en 10 ans, le souvenir se déforme, bien entendu. Et puis ensuite, là intervient le travail de l'écrivain, en ce sens qu'il va lui-même transposer, agrandir, noircir, il va faire tout un travail considérable et qui était très intéressant puisque moi, quand j'écrivais la biographie de Céline, j'avais à côté de moi, bien entendu, les romans correspondants à la période pendant laquelle je travaillais et c'était particulièrement intéressant de voir alors là le travail du romancier, le travail de l'écrivain qui, à partir d'une réalité donnée que j'avais pour mission d'établir, construisait une œuvre absolument fantastique. Alors, l'intérêt de cette biographie était donc pour moi tout à fait particulière et j'y ai trouvé un plaisir infini, un intérêt infini à écrire cette biographie. Alors, en revanche, il y a eu les difficultés du parcours. C'était difficile parce que tout biographe doit entendre des témoins, tous les témoins vivants, j'ai fait ce que je pouvais. À l'époque, il y en avait encore beaucoup, maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Et c'était difficile d'interpréter les témoins parce que face à Céline, face à l'homme, comme face à l'œuvre d'ailleurs, il n'y a pas de tiède. Il y a des gens qui considéraient Céline comme un saint et puis d'autres qui considéraient Céline comme un démon. Je n'ai jamais rencontré de gens qui me disaient « Ah oui, il était sympathique, il était gentil. » Voyez-vous, de tiède, il n'y avait pas de tiède. Il y avait les excessifs dans un sens et les excessifs dans l'autre. De telle manière que là, j'avais aussi à trouver mon chemin et je dois dire que ça n'a pas toujours été difficile. Et puis, l'autre difficulté du parcours, c'était qu'il fallait dire toute la vérité, évidemment. même les choses très désagréables, même les choses très négatives pour Céline, je crois les avoir toutes dites. Je me souviens par exemple d'une lettre particulièrement ignoble, je dois dire, de Céline au président de l'Ordre des médecins de Seine-et-Oise. Cette lettre était ignorée de tout le monde. J'ai demandé à prendre connaissance évidemment du dossier de Céline à l'Ordre des médecins. On me l'a communiqué et j'ai trouvé cette lettre dans laquelle il disait, une lettre qui doit être de 1940 ou 41 je crois, dans laquelle il écrivait à l'Ordre des médecins en ce qui concerne les nouvelles lois de Vichy, vous savez, interdisant aux Juifs de continuer à exercer les professions libérales. Il s'associe absolument à cette demande dans des termes tout à fait désagréables, mais cette lettre était secrète. Je n'avais d'ailleurs pas le droit de la publier parce qu'on m'avait demandé de ne pas la publier. Je l'ai publiée, bien entendu, et c'est ça le travail du biographe, c'est d'aller rechercher tout ce qu'on trouve et de dire toute la vérité sans parti pris et sans aucune espèce de complaisance. Voilà ce que je voulais vous dire du travail que j'ai effectué pendant 10 ans, même plus de 10 ans. Et en conclusion, voilà les impressions principales que j'ai retirées de ce travail. Ce qui m'a frappé le plus, ce qui me frappe encore le plus aujourd'hui, c'est la solitude. La solitude de Céline dans sa vie et comme écrivain. Solitude, l'enfant est fils unique. On mesure sa solitude dans ses lettres quand il est en Allemagne, quand il est en Angleterre ensuite. On la mesure encore plus quand il est à Rambouillet et qu'il écrit, vous savez, ses carnets qui ont été retrouvés. Là, on voit vraiment l'homme seul. On la mesure ensuite en Afrique, alors là, de façon tout à fait flagrante. Et curieusement, on la mesure également à New York, car il écrira que c'est finalement dans la multitude, hein, j'ai une ville grouillante, hein, dans la multitude qu'il a mesuré sa solitude plus encore que en Afrique. Et puis ensuite, bien sûr, solitude quand il sera pendant les 7 années d'exil, plus encore en prison et quand il sera dans cette période qui est une période d'exil volontaire, de prison volontaire presque, c'est-à-dire les 10 années de Meudon dans laquelle il vit dans une réelle et profonde solitude. Et solitude aussi de l'écrivain qui n'appartient à aucun... il a toujours été seul, il a toujours fait comme il voulait, écrit comme il voulait contre vents et marées, contre même quelquefois les critiques. C'est un écrivain solitaire qui n'appartient bien entendu à aucune chapelle, à aucun groupe, à aucun... donc la solitude de l'homme se retrouve dans l'écrivain. Seconde impression, outre la solitude, c'est un homme qui a toujours refusé de se laisser enfermer, de se laisser guider, de se laisser commander. C'est un homme qui avait absolument besoin de vadrouille, hein. Un homme qui ne pensait qu'à s'évader de sa condition, à voyager, à partir, à voir, un homme curieux, un homme qui instable par bien des côtés et qui voulait absolument découvrir par lui-même le monde. C'était un homme qui avait absolument besoin de vadrouille et c'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous dire. Il avait absolument besoin de liberté. Voilà ce que je voulais vous dire en avant-propos, avant de donner la parole à Gaël Richard. Alors, un mot tout de même de Gaël Richard, c'est un homme jeune, il a 37 ans en tout cas, jeune par rapport aux anciens céliniens auxquels j'appartiens. Nous avons presque plusieurs générations de différence. Alors, c'est un historien de formation, il est passionné de recherche en archives, et il collabore, il est membre de la Société d'études céliniennes, hein, assez jeune membre de la Société d'études céliniennes. Il collabore depuis 2004 à l'Année Céline, qui est une revue d'actualité célinienne qui est publiée par Jean-Paul Louis depuis déjà de nombreuses années. Il a effectué de très très nombreuses enquêtes biographiques, dont il a rendu compte dans l'Année Céline. et il a publié également des textes oubliés ou des textes retrouvés, toujours dans l'année Céline. Il a collaboré à l'édition des lettres à Jacques Mourlet et à celle des cahiers de prison, toujours dans l'année Céline, et il est l'auteur de deux volumes qui ont été publiés tous les deux aux éditions du Lérot. Le dictionnaire des personnages dans l'œuvre romanesque de Louis-Ferdinand Céline en 2008 et le procès Céline plus récemment, puisque ça a été publié toujours au Lérot en 2010. Et il prépare, il travaille, hein, continue à travailler, et il prépare actuellement deux volumes à paraître aux éditions du Lérot, c'est-à-dire le dictionnaire de la correspondance de Céline, en collaboration d'ailleurs avec Éric Mazet et je crois Jean-Paul Louis, et puis La Bretagne de Céline. Voilà, Gaël Richard, je vous donne la parole et je précise encore que le titre de votre intervention est « Les traces d'une vie, recherche biographique ».